Petite, sur son île de Mayotte, elle enseignait à des cailloux. Oui, vous avez bien entendu, des cailloux, qu'elle rangeait comme si c'était ses propres élèves, puis prenait des ardoises et leur faisait cours comme à de vrais petits écoliers. 20 ans plus tard, Muniati Moana est devenue une vraie enseignante, passionnée par son métier, décrochant même l'agrégation d'histoire, la première de toute l'histoire de son île. Ce sont ses parcours de combattants que je vous invite à venir découvrir tout l'été sur France Inter. Ceux obligés de se battre pour arriver là où ils sont aujourd'hui, là où on ne les attendait pas, redoublant d'efforts au prix parfois de sacrifices. Je vous invite à mettre la lumière sur ces compagnons de galère qui ressemblent à tant de millions d'autres. Les batailles menées, les obstacles franchis, les discriminations parfois aussi, dans une France qui a bien du mal à faire respecter l'égalité, mais où ils ont enfin trouver leur place. Des parcours de combattants qui éclairent la France d'aujourd'hui, la France de demain.
France Inter. Nassira El Mouadem. Parcours de combattants.
Bonjour Muniati Moana.
Bonjour Nassira.
Là on est en plein dedans là.
Oui.
On est à Mayotte.
On est à Mayotte.
Très loin, mais pas si loin, puisque département français d'outre-mer. Vous êtes l'invité des parcours de combattants qui vient du plus loin géographiquement parlant de tous mes invités.
C'est vrai.
Vous êtes donc absolument mahoraise, habitante de Mayotte, une île de l'archipel des Comores, dans l'océan Indien, le dernier département français depuis 2011 et département aussi le plus pauvre de France. Votre parcours de combattante à vous, c'est celui qui vous a amené à devenir professeur aujourd'hui à Mayotte, sur l'île de votre enfance, par conviction, par détermination et surtout la première agrégée de l'histoire de votre île. Bravo.
Merci. Merci, merci.
Qu'est-ce que ce choix de devenir enseignante dit de vous, Muniati?
Donc je suis agrégée en histoire et géographie. Bah déjà, je pense que ça dit que j'aime l'école, que ça a été un endroit, en tout cas, quand moi j'étais enfant ou adolescent, dans lequel je m'y suis retrouvée. Parce que pour choisir après de passer toute sa vie d'adulte dans un collège, c'est que quelque part on a aimé cet endroit, où même si c'est un endroit difficile, ça dit peut-être aussi que j'ai envie d'offrir à mes élèves cet espace réconfortant et accueillant et qui à la fois vous dit que tout est possible, qu'on a pu m'offrir. Voilà.
Vous avez aujourd'hui 33 ans.
Exact.
Vous avez été élevée par votre maman, assistante de gestion. Vous avez une petite sœur en situation de handicap. Elle ressemblait à quoi, votre enfance à Mayotte?
C'est la plus belle des enfances, je pense. Alors, je dis ça avec beaucoup de nostalgie parce que Mayotte a une situation aujourd'hui qui est marquée par l'insécurité, le manque de liberté quelque part, parce qu'on a souvent peur d'être agressé. Et notre enfance, c'était tout l'inverse. C'était cette liberté à 8 ans, à 10 ans, pouvoir aller se baigner aux rivières, dans les cascades, sans problème, aller aux plages, j'en sais rien, quand on avait 13 ans, sans souci. Quelque chose, je n'imagine pas trop les adolescents pouvoir faire aujourd'hui parce que ils peuvent se faire agresser, etc.
Et on entendait tout à l'heure les bruits des vagues.
Oui.
C'est aussi ça, Mayotte.
C'est aussi
enfance.
Ça. C'est la plage, c'est le littoral, c'est ce qu'on appelle chez nous les voulées, ce sont les barbecues festifs en bord de mer, à la plage, où on va ramener à manger, où on va venir en famille, entre amis, on va faire des grillades, on va se baigner. C'est le lagon, un des plus beaux du monde. C'est le PMT, le pelmasque tuba. C'est-à-dire la possibilité de nager avec des poissons multicolores, des dauphins, des tortues. On peut, quand on habite à Mayotte, tous les week-ends, si on le veut, nager avec des tortues et des dauphins. Si, c'est vrai.
Vous aviez commencé un tout petit peu à répondre à la question, mais l'école dans tout ça?
L'école, c'était bien. Moi, je trouve que j'avais des enseignants bien investis, qui m'ont appris beaucoup de choses, qui m'ont guidée quand j'en avais besoin, qui m'ont fait découvrir des choses. Alors, bien évidemment, on peut pas avoir que des bons enseignants. Malheureusement, des fois aussi, on en a qui sont pas très bons. Mais de manière générale, j'en ai eu des très, très bons.
Et l'institution scolaire, en tant que telle, elle représentait quoi à cette époque-là pour vous?
Pour nous, je pense que ça représentait, comme pour beaucoup, Parce que voilà, Mayotte, c'est le quand même le département le plus pauvre. Donc il faut imaginer que c'est une île qui est à construire. Et du coup, l'institution scolaire, bah, ça permet de former des gens qui vont construire l'île. Et nous, c'est un peu ça. C'est avoir des compétences, des diplômes pour aider à faire développer l'île. Et l'institution scolaire, bah, ça permet ça.
Sans aucune conscience, j'imagine à l'époque, quand on est enfant, même voire ado, la conscience que matériellement parlant, en termes d'infrastructures, en termes de moyens, bien l'éducation à Mayotte, bah, c'est pas celle qu'il y a en métropole.
Non. Ça, c'est ces inégalités. On s'en rend compte quand on vient en métropole un peu plus tard pour faire ses études. Mais encore une fois, pour moi, j'étais dans la meilleure école primaire possible, dans la meilleure école maternelle, dans le meilleur collège. C'est après que j'ai appris qu'on n'avait pas de cours de musique, qu'on avait art plastique une fois sur deux, que les moyens loués pour des élèves dans le secondaire à Mayotte sont moins élevés que ceux des élèves en métropole.
Mais c'était votre quotidien.
Voilà, sur le moment, on le vit très bien et voilà.
Et alors, comme je le disais en introduction, il paraît que quand vous étiez gamine, vous preniez des petits cailloux et vous imaginiez que c'était vos propres élèves.
Ben oui.
Ça a commencé comme ça, votre rêve de devenir prof?
Je sais pas si c'est un rêve. Je pense que j'ai toujours été curieuse. J'ai toujours été attirée par le savoir, en tout cas le fait d'apprendre. Et j'aimais bien le fait d'apprendre à d'autres. Et donc...
De transmettre,
c'est ça. Et je sais que je le faisais aussi sur des copines qui étaient en classe inférieure. Par exemple, quand j'étais au CE1 et que j'avais des copines en CP, je leur disais, venez, je vais vous apprendre parce que l'année prochaine, ça allait être au CE1. Et comme ça, vous allez savoir et vous serez pas piégés par le maître, etc. Mais quand les copines n'étaient pas là, j'alignais des cailloux. Ça, c'est vrai. J'en alignais suffisamment pour en faire une classe.
Une classe.
Et je mettais mon ardoise et puis j'écrivais quelque chose et bon. Voilà.
On vous imagine très bien. Et puis, il y a eu le départ vers la métropole, une fois le baccalauréat en poche. Vous partez en 2006, l'année du bac. Et c'est quelque chose d'inévitable, hein, quand on veut faire des études supérieures, que de quitter Mayotte.
Oui, à l'époque, oui, c'était inévitable parce qu'à l'époque, on n'avait pas de formation post-bac. Alors maintenant, il y en a un petit peu, mais la très grosse majorité part, soit à La Réunion, dans le département français à côté, ou pour la plupart ici en Hexagone. Oui, c'est inévitable, on est préparé à partir.
Est-ce que c'est un crève-cœur de quitter Mayotte à ce moment-là, pour vous? Ou est-ce que c'est le début, vous vous dites, d'une nouvelle aventure?
Moi, c'était le début d'une nouvelle aventure. Moi, j'avais envie de partir, j'avais envie de découvrir. J'avais compris qu'avec mon passeport européen, que je pouvais aller partout. Et que j'avais compris comment fonctionnait l'Europe. Ça m'avait fasciné d'être dans mon petit cahier de l'océan Indien, qu'on m'explique avec un passeport européen, pour aller en Italie, en Espagne, sans visa, sans rien du tout.
Voilà. C'était une nécessité pour vous de partir à ce moment-là?
Pour moi, oui. Y a toujours cette soif d'apprendre, de se stimuler, de découvrir de nouvelles choses, et puis c'était une nécessité parce que moi, je voyais en tout cas mon accomplissement par les études, et les études, c'était pas à Mayotte.
Est-ce que vous étiez préparée à ce départ? Est-ce que vous vous sentiez en tout cas préparée à partir?
Oui et non, c'est un peu compliqué parce que, en fait, on peut pas vraiment être préparé à 100%. Et je pense qu'il faut pas être préparé à 100%. Il y a des choses pratiques de la vie auxquelles il faut être préparé. Et ça, je pense, en tout cas, dans mon cas, mes parents, ma mère et mon beau-père ont fait quand même le job. Par exemple, moi, j'avais choisi d'aller à Strasbourg. Mes parents étaient très contents parce qu'ils m'ont dit, on est content parce que tu vas pas aller, t'as pas choisi la facilité d'aller dans une ville où il y a une forte communauté mahoraise. Donc on sait que ça va te forcer à t'ouvrir aux autres cultures, parce que pour eux, l'Hexagone c'était aussi ça, c'était ce multiculturalisme, le pouvoir de côtoyer toutes ces cultures, toutes ces nationalités. Ils voulaient surtout pas que je parte pour m'enfermer dans ma culture mahoraise et en revenir sans aucun apport des autres cultures. Et donc, quand je leur ai dit que je partais à Strasbourg, ils m'ont dit « Alors ne t'inquiète pas, les Alsaciens peuvent paraître froids de prime abord, mais continue à leur dire bonjour et tu verras une fois qu'ils t'auront accueilli, ils t'auront vraiment accueilli. »
Ça va bien se passer.
Voilà, ça va bien se passer. Je crois que c'était le meilleur conseil.
Et vous dites Hexagone, vous dites pas métropole.
Oui, ça c'est un changement. Quand je suis arrivée à 18 ans, j'ai dit métropole et maintenant je dis Hexagone.
Pourquoi?
Parce que métropole, ça renvoie à un certain passé, le passé colonial. Et puis, quand on évoque ce passé colonial, on pense aussi à nos inégalités à nous. Il y a cette expression souvent quand on parle des territoires ultramarins, pour pointer du doigt nos problèmes, des fois on dit on est en souffrance. C'est-à-dire qu'il y a la France, il y a la souffrance.
SOUS-France.
Voilà. Et en fait, la souffrance, ça revoit un peu à ces appellations, métropole. Voilà, bon, ça change pas grand-chose, mais c'est une petite revendication.
C'est intéressant. Vous voilà donc arrivé dans l'Hexagone, passage obligé de nombreux jeunes Français d'outre-mer. Et c'est le début d'un autre parcours du combattant.
Il veut soigner tous mes maux, mais je lui dis d'aller doucement. Il veut effacer mes doutes et mes peines et sa tendrement. Même moi, je marche à l'instinct. Est-ce que tu sens cette énergie? Je veux ressentir ça jusqu'à la fin. Sinon c'est mort, je vais tracer ma route. C'est qui? C'est qui? Tu me vois pas venir, demande pas c'est qui. En I, j'arrive. Y'a pas de débat, c'est moi la pipi. Baby, don't you go nowhere. Freeze, even though you get what you want, say please. I can put a date on it, say when. Spinning friendships, baby, scream wee wee. I'm real shawty. She coming toward me, catching on. Pull over, how crazy you driving. I make promises to call. Même moi, je marche à l'instinct. Est-ce que tu sens cette énergie? Je veux ressentir ça jusqu'à la fin. Sinon c'est mort, je vais tracer ma route. C'est qui? C'est qui? Tu me vois pas venir, demande pas c'est qui. En I, j'arrive. Y'a pas de débat, c'est moi la pipe.
C'était C'est cuit de Aya Nakamura avec Major Lazor.
France Inter, parcours de combattant, Nassira El Mouadem.
Nous sommes toujours en compagnie de Mounia Timoana, professeure d'histoire-géographie à Mayotte, au collège Kaweni 2 à Mamoudzou, chef-lieu du département de Mayotte. Avant de continuer à dérouler ensemble votre parcours, quelques secondes pour remercier Valentine Chedebois pour la programmation musicale, Mao de Butler de m'avoir aidé à préparer cette émission, Fanny Cohen-Moreau qui la réalise, et à la technique Louis Audebert et Maxime Goudard. Nous sommes donc en 2006, Mouyati Moana, vous débarquez en France hexagonale pour poursuivre vos études. Alors racontez-nous votre arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle d'abord.
C'est très impressionnant quand on vient des Outre-mer, parce que déjà c'est très grand. Enfin, je ne sais pas si j'ai une comparaison, peut-être que quelqu'un qui vient de province et qui débarque à Paris, enfin, je ne sais pas. En fait, on est dans l'avion tout un contingent d'élèves, de futurs étudiants maorais, et on a tous une correspondance. C'est-à-dire qu'on arrive à Paris, mais il y en a qui vont étudier à Montpellier, d'autres à Strasbourg comme moi, etc., Lille. Et donc nous, on arrive, on débarque. Déjà, c'est très impressionnant parce que c'est grand. Et puis bah là, on est un peu perdu parce qu'il y a une histoire de terminal. Moi, j'arrive et je devais rejoindre, je suppose que je suis arrivée au terminal 2F, je vais aller à l'autre terminal pour prendre mon vol pour Strasbourg. Et j'ai une copine qui allait à Béziers et qui allait au même terminal. Et là, on bug tous les deux parce qu'on se dit, mais non, mais c'est pas possible. Toi, tu vas dans le nord-est, moi, je vais dans le sud. Et on comprenait pas cette organisation. On se disait, mais non, mais c'est aucune logique. Et puis, on était persuadés que ça n'avait aucune logique parce que quand même, on venait d'avoir notre bac, qu'on connaît la géographie, qu'on connaît nord-est au sud et qu'on savait que, voilà, Béziers et Strasbourg, c'est pas dans le même coin de France. Et puis là, en fait, on a eu notre sauveur qui est une personne que le département, enfin à l'époque, la collectivité départementale de Mayotte, en fait, faisait venir pour accueillir les étudiants et qui nous a dit « ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, vous allez au terminal et là-bas vous allez avoir des indications sur vos portes, etc. Et c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas ».
Puis ensuite, donc direction Strasbourg, où vous arrivez. Et vous ne choisissez donc pas cette ville au hasard, comme vous le disiez tout à l'heure avec vos parents, et pas juste une question de cours universitaire. Il y a aussi le choix, alors là moi je suis assez étonnée, mais du climat.
Exactement. Quand on a grandi au soleil, la neige, le froid, c'est exotique. C'est l'inverse pour nous. Moi, le soleil, c'est bon, je le connais, hein, il m'a tapé dessus pendant 18 ans, ça va. Je sais comment il brûle, la plage, je le connais. Enfin, et donc, moi, ce qui me fascinait, c'était vraiment de voir la neige et ce climat froid. Et je sais que la première année de mon arrivée à Strasbourg, il a neigé très tard. Je me souviens très bien, il a neigé le 27 janvier 2007.
Mais là, vous vous êtes dit, mais on m'a menti.
C'est ça. Je disais à mes amis, mais je comprends pas, elle est où la neige? Je me disais, mais d'habitude, il neige et tout.
C'était pas sur la brochure.
Voilà, c'est ça. Mais moi, je suis venue pour la neige et il n'y a pas eu la neige. Et puis, bah, en fait, une fois qu'on découvre la neige, on se dit, bah, ok, en fait, c'est pas, enfin,
c'est pas, c'est oui, pas parce si que c'est pas ça. Montagneux non plus, c'est voilà. Pas la montagne juste à côté de,
c'est
de,
ça,
des cours de fac.
Okay, bon, bah, en fait, c'était quand même quelque chose d'attractif pour moi.
Vous vivez seule dans un petit studio d'une résidence du Crous. Vous ne connaissez personne, aucun ami, pas de la famille sur place, et puis il fait froid. Comment vous vivez tout cela les premiers temps? Comment vous vous adaptez à cette nouvelle vie?
Je pense que je m'adapte positivement. Dans le sens, moi je suis contente d'être là, je suis contente de découvrir, je suis contente d'être indépendante, je suis contente de gérer mes sous, de me gérer. Et voilà, tout est positif. Et moi, ce qui était le plus important, c'est de me faire des amis. Et j'ai réussi ça assez rapidement.
Le mal du pays quand même, un peu?
Alors pas tout de suite. Le mal du pays, il est arrivé un peu sans prévenir. Il est arrivé au moment des fêtes de Noël et Nouvel An. On était partis en boîte pour fêter la nouvelle année et je me suis retrouvée à bad tripper et à rentrer en me disant non, bah moi je reste pas là et je rentre et j'appelle.
Rentrer à Mayotte?
Non, rentrer dans mon studio, c'est-à-dire je quitte mes amis parce que je suis pas bien, et alors que jusque-là tout allait bien, je me faisais plein d'amis. Enfin voilà, à un moment je me dis en fait je suis loin, en fait j'ai pas de famille. On prend conscience, c'est bien, je découvre plein de choses, plein de nouvelles choses, mais je suis loin, je suis seule, j'ai pas de famille. Et là, j'appelle une amie, une de mes amies qui était à Amiens. Et là, on se réconforte, elle a eu le même bad trip, elle a dit, mais ok, c'est cool, mais on est loin. Et après, on s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on a été stupide, mais pourquoi chacune est partie dans une ville opposée? Parce que on est toute une génération, enfin tout un groupe d'amis, avoir eu le bac la même année, on s'est pas dit... Bah allez, on va tous aller dans la même ville. Non, chacun fait son truc. Oh bah non, moi je suis à Amiens parce que je sais pas. Moi je vais à Strasbourg et bon voilà, on s'en est bien sorti. Mais c'est vrai que sur ce moment, on s'est dit bah on aurait été peut-être mieux si on avait un visage familier au quotidien.
Si vous aviez été ensemble.
Ouais.
Il y a cette faculté d'adaptation que vous avez, mais il y a quand même une certaine violence au départ, notamment celle des cours. Vous débarquez en licence d'histoire, donc à la fac de Strasbourg, et vous vous rendez compte que votre histoire à vous, en tant que Mahoraise, n'est pas celle qu'on enseigne à Strasbourg, que vous devez tout apprendre, y compris ce qui est de l'ordre de base pour les étudiants français et hexagonaux.
Tout à fait. En fait, il y a ce décalage où je me rends compte que je n'avais pas les bases. Enfin, vraiment, j'avais pas les bases, tout simplement.
De quelles bases on parle?
Je sais pas, les bases pour étudier en histoire, j'ai peut-être quelques bases de culture générale. Et j'avais cette impression que je faisais partie des meilleurs de Mayotte, je pense que oui. En fait, moi, je pensais que quand on s'inscrivait dans une formation, on partait tous de zéro.
C'est le fameux mythe.
Voilà, je pensais que c'était ça. Et du coup, j'arrive et je vois mes camarades en train de faire des blagues historiques sur des personnages et tout. Et donc, je me dis, oh là là, mais ils sont... aussi avancé pour faire des blagues. Moi, ouais. Moi, mes blagues, c'est bas de gamme, niveau bas de gamme. Pour moi, si on en arrive à faire des blagues sur l'histoire ou sur des personnages historiques ou des faits historiques, c'est qu'on a une certaine maîtrise, une certaine
Absolument.
Culture. Moi, j'avais pas ça encore. Et du coup, déjà, ça me choque. Et ensuite, j'ai fait tout un semestre, voire une année, où je comprenais pas grand-chose. Mais j'y allais quand même en amphi. Mais en fait, j'y allais, mais je m'évadais parce que même quand j'essayais de suivre, je comprenais pas le sens de tout ça. Je me disais, en fait, plusieurs fois, j'étais en amphi, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là?
Ouais, Pourquoi je suis ici?
Alors, autant dans la ville, c'était super, mais une fois que je mettais les pieds dans l'amphi, j'étais là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici?
Et à l'inverse, vous vous rendez compte aussi que Mayotte, alors personne ne connaît, il faut donc sans cesse expliquer qui on est, d'où l'on vient. Et c'est en fait le paradoxe permanent des Français, des territoires et des départements d'outre-mer.
Tout à fait. En fait, Mayotte, à chaque fois, il faut que j'explique. Ah, c'est où? Alors des fois les gens ils entendent Majorque, ils entendent Bayonne.
Est-ce que vous faites des quiz par exemple des fois?
Non non. Mais en fait j'étais pas agacée. En fait il faut m'imaginer jeune, enthousiaste, c'est pas grave, je vais vous expliquer, il y a pas de souci, et je le faisais volontiers. Et la question qui revenait souvent, c'est français, vous parlez français, vous utilisez l'euro, et c'est le même système éducatif. C'est les premières questions. Alors je pense que maintenant les gens connaissent un peu plus Mayotte. Il y a une seule personne dans mon parcours à Strasbourg qui a su me localiser, situer Mayotte comme il faut. C'est est-ce que je peux le citer ou pas?
Bien sûr.
Alors c'est un de mes super potes de fac qui s'appelle Julien.
Mais on l'embrasse, Julien. Voilà. Bravo à vous, Julien.
Un gros cœur. Et en fait, il a dû me voir perdu dans l'infi. Il a dit hey, salut, ça va? Tu viens d'où, toi? Et là, je lui dis, je viens de Mayotte, et il m'a situé, il m'a dit, mais c'est dans l'archipel des Comores. C'est, la seule île des Comores à être devenue française.
Et depuis, vous l'avez pas lâché.
C'est ça. Il m'a cité la chronologie et tout, et voilà.
Avec aussi, parfois, quelques remarques racistes, quand même, de la part de camarades.
Ça, c'est arrivé en deuxième année, et, c'est là où j'ai découvert le racisme. En tout cas, moi, dans mon enfance de Mayotte et adolescence, il n'y avait pas de racisme.
Vous l'aviez pas connu?
Je l'avais pas connu. Il y avait une sorte de vivre ensemble où, on habitait tous, on se côtoyait tous. Et j'ai été un peu surpris. Alors, c'est arrivé rarement, mais quand ça arrive, en fait, ça surprend.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est des remarques de type... donc, on va dire, c'est une personne qui est en L2 avec vous, dans le même TD. Donc, supposer qu'on a le même niveau d'études. Et qui dit, c'est bizarre, toi, tu parles bien français. Toi, au moins, tu parles bien français.
Ah oui, le au moins, il est violent.
Voilà, toi, au moins, tu parles bien français. Non, pour une Noire, tu parles bien français. C'était un peu compliqué pour moi parce que c'était. J'ai l'impression que quand on est issu de la diversité, qu'on a grandi en Hexagone,
la diversité,
enfin, avec plein de guillemets, hein, c'est une façon de parler. On est confronté à ça plutôt. Et donc, je pense que quand on débarque à 20 ans en L2, voilà, on a déjà eu plusieurs remarques et tout. C'est pas la nouveauté.
Comment vous réagissiez à l'époque?
En fait, sur le moment, c'était plus les autres qui étaient choqués. Parce qu'en fait, j'étais tellement naïve, je me dis, mais ça existe? J'y croyais pas. Et donc, j'avais tous mes amis qui étaient choqués par les propos de cette camarade et qui voulaient lui rentrer dedans et remettre les points sur les i à ma place. Et moi, je dis là, mais non, je vais continuer à traîner avec elle, comme ça, je vais lui montrer que tous les Noirs sont pas comme ça. J'étais vraiment
pleine de bonne volonté.
Voilà, je voulais lui enlever sa vision que la plupart des Noirs, c'est des sauvages.
Puis avec les années, vous prenez du plaisir à apprendre l'histoire. Enfin, c'est l'arrivée en master, où vous tombez vraiment amoureuse de la discipline, au point d'exceller avec un 19 à votre mémoire de recherche. Mais vous en avez marre d'étudier, vous voulez travailler, vous passez votre CAPES d'histoire et vous réussissez du premier coup. Vous commencez à enseigner à Versailles et Ville d'Avray, et là, c'est un pur bonheur pour vous. C'est quoi qui vous permet de vous épanouir dans le métier, dans les premières années là d'enseignement?
C'est tout. Là, franchement, j'aimerais vraiment rendre hommage à l'institution quelque part. Moi, ma première année, je débarque dans ce bahut de Ville d'Avray et tout le monde me prend sous son aile.
Donc, on essaye d'imaginer où est-ce qu'on est, hein, ouais. Ville assez aisée des Hauts-de-Seine.
Exactement, voilà. Ouais. Et donc, j'ai tout le monde qui me prend sous son aile. J'ai la principale qui me prend vraiment. On fait des rendez-vous tous les trimestres, on discute, je lui fais part de mes doutes. Par exemple, une fois, je lui ai dit... j'aimerais bien que vous venez me voir avec une classe parce que je pense que ma posture d'enseignante, elle est venue à la regarder. Donc j'avais déjà la chef qui avait ce regard bienveillant pour m'accompagner, etc. Ensuite, j'avais une tutrice qui était là, qui était présente. Et j'avais tous les autres collègues, des collègues de langue, auprès de qui j'ai beaucoup, beaucoup appris parce que en termes de pédagogie, les collègues de langue sont dans une pédagogie active. On va dire que tous mes collègues m'ont ouvert la porte de leur classe. Et du coup, je pouvais aller observer les cours. Et ça, c'était hyper intéressant. C'était intéressant, pourquoi? Parce que je voyais différentes manières d'enseigner. Moi, je voulais apprendre.
Et puis, c'était concret.
Voilà. Et ce qui m'attirait chez les profs de langue, c'est que c'est vivant, ça parle. Et je voulais ça dans ma salle de cours d'histoire. Et donc, j'ai eu ça. J'ai eu ces super collègues, tous qui m'ont enseigné, qui m'ont ouvert la porte de leur classe. Et pour la petite histoire, à la fin, puisqu'en fait, on fait son année de stage... Et à la fin, on a un papier de l'inspection qui dit « c'est bon, vous êtes titularisé ad vitam aeternam dans l'éducation nationale ». Et à la fin, on m'a fait une petite cérémonie d'adoubement. Donc déjà, pour ça, par rapport à cet environnement bienveillant que moi j'ai reçu. Enfin, je parle avec émotion parce qu'ils m'ont vraiment aidé à devenir l'enseignante que je suis.
Et il y a eu aussi les professeurs qui vous ont marqué durant votre parcours.
Ouais.
Parmi eux, une certaine Jacqueline Pasquetta, votre professeure de lettres au collège de Zoumonier au nord de Mayotte. Nous l'avons contactée et elle vous a laissé un message vocal. Écoutez.
Bonjour Mouniati, je suis très heureuse de participer à cette émission à laquelle tu as été invitée pour ton parcours exceptionnel. Comment imaginer que dans ce collège de brousse de Mayotte à Zoumonier, une petite élève m'écouterait avec tant d'attention et que je déclencherais son envie de lire, d'étudier et d'écrire. 20 ans plus tard, tu as cherché à me retrouver et je dois te dire que c'est le plus beau cadeau qu'un enseignant puisse recevoir. Quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que tu avais conservé une rédaction de 14 pages et que mes annotations qui t'encourageaient à lire et à écrire avait relancé ton désir d'écriture. Aujourd'hui, nous sommes collègues et amis, et nous partageons le goût d'écrire. Notre correspondance dure depuis 5 ans. Tu me fais lire tes textes, que je continue d'annoter. Je t'envoie mes poèmes sur lesquels tu me donnes tes impressions. J'admire en toi tout ce que tu mènes de front avec tant de passion et de générosité. Garde cette belle énergie. Notre métier en a bien besoin.
Alors, vous étiez du genre à faire des rédactions de 14 pages, Mouniati?
Ben oui, quand on est inspiré.
Je vous rassure, moi aussi.
Quand je suis à fond, je suis à fond. Hein.
Elle a représenté quoi pour vous, cette enseignante?
Beaucoup de choses. Vraiment, la personne, elle m'a ouvert l'esprit sur plein de choses. Ses cours, vraiment, c'était des super cours. Et je tiens à le dire parce que, en fait... Enfin, on a toujours ce débat, l'enseignement en métropole, je dis encore métropole, mais par rapport aux Outre-mer, mais je tiens juste à dire que les cours de Madame Pasquetta, pour moi, j'avais pas l'impression d'avoir un sous-enseignement. Parce que, nous demander des rédactions à chaque fois. Elle m'a fait découvrir Louis Aragon, qui est quand même mon poète préféré. Et ça, c'est grâce à elle. quand j'ai retrouvé cette rédaction avec son annotation où elle m'a dit, elle m'a même pas dit excellent, etc. J'avais eu une super note en plus, j'avais eu 18. Et elle me met surtout, continuer d'écrire. Pour moi, c'est important parce que l'écriture, ça fait partie de ma vie. Elle représente beaucoup, beaucoup de choses.
Vous enseignez quelque temps dans ces villes aisées d'Île-de-France, comme on l'a dit, mais sur un coup de tête, vous décidez de rentrer à Mayotte. Nous verrons ensemble pour quelles raisons après cette chanson que vous avez choisie.
Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura. Que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro
C'était Oi de Gloria Estefan.
France Inter, parcours de combattants. Nassira El Moadem.
Pourquoi avoir choisi cette chanson, Mounia Timouana?
Oui, ça veut dire aujourd'hui en espagnol, pour ceux qui ont pas fait espagnol LV2, ceux qui ont fait allemand. Et en fait, Oi, ça raconte l'histoire d'un retour dans sa terre natale. Et donc, c'est la chanson que j'écoutais en rêvant, en imaginant mon retour à Mayotte. Et en fait, ça dit, au nord, enfin, je suis entourée d'un village, j'ai un village qui m'accompagne. Au sud, j'ai la mer. Et en fait, ça représente bien Mayotte, quoi. Le village et la mer qui m'accompagnent.
Après 8 années en métropole, vous rentrez donc à Mayotte en 2014 enseigner. Comment est-ce que vous prenez cette décision?
C'était même pas calculé. Franchement, non. C'est ma cousine, en fait, qui m'a piqué au vif, qui m'a appelée, et qui, en fait, il y avait une grève des enseignants.
À Mayotte, donc?
À Mayotte, en rapport avec les primes, quelque chose comme ça. Et ma cousine m'appelle et me dit, non, mais faut que tu rentres, là, c'est pas possible. Tes collègues, là, ils ont faim d'aller à l'aéroport et de quitter Mayotte. Ils ont manifesté en prenant des valises. Faut que tu rentres. Il y en a marre. Il y a des Maorés qui sont profs, qui ont les diplômes, qui ont passé les concours. Faut que tu rentres enseigner. Et donc, je sais pas, elle me dit ça, comme ça, au détour d'une conversation. Et moi, je fais ma demande. Parce qu'en fait, elle a ravivé un truc qui était tout le temps en moi. C'est, ça a toujours été ça, le but. Hein. Le but, c'était de rentrer à un moment donné.
Sans que c'était formulé
c'est ça, voilà.
Précisément.
Voilà. En plus, elle me dit un truc, mais c'est bon, arrête d'enseigner aux enfants de Bourges. Enfin, ça, c'était un peu caricature, mais c'est pas du tout ma vision. Pour moi, enseigner, c'est un peu comme quand on est médecin. On a un serment, donc que l'on enseigne dans des territoires aisés ou dans des territoires pauvres. Pour moi, c'est la même mission et c'est la même passion qui m'anime. Et là-dessus, je fais pas du tout de distinction. Mais c'est vrai que là, oui, effectivement, oui, si j'avais ces compétences dans le département le plus pauvre, là où il y a tout à construire, il fallait que je rentre.
Comment se passent donc vos débuts de professeur dans votre île?
Beaucoup de balbutiements, parce qu'en fait, je rentre en tant que professeur, mais je rentre en tant qu'enfant du pays, qui a changé, qui a vu autre chose.
Qui a beaucoup changé.
Oui, quand même. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Je sais pas, il y avait un peu cet accord tacite ou pas entre l'île et moi. En tout cas, moi, je l'avais imaginé comme ça dans ma tête. C'était, bon, écoute, je pars. Toi, tu continues à te développer. Moi, je vais revenir plus forte. Et on va se croiser, on va se recroiser à des moments où on va être chacune assez fort et on va faire de belles choses ensemble. Et en fait, je reviens et je trouve que mon île a pas trop progresser.
Respecter le contrat.
Voilà. Et donc ça me procure une immense colère quand je constate, quand je constate tous les problèmes d'insécurité, je me dis, oh là là, mais comment on est passé à cette enfance où on pouvait traîner, s'aventurer partout à cette situation où on a peur de sortir le soir, où on a peur pour nos enfants. Et du coup, ça m'a frappé déjà.
Vous avez dit à Mao de Butler, la journaliste qui m'aide à préparer cette émission, que vous vous êtes sentie trahie.
Oui. Non mais trahi,
c'est
mais,
fort comme mot.
Mais oui, mais parce que trahi, parce que je sais pas à qui en vouloir, parce que c'est triste en fait. C'est un si beau territoire Mayotte en fait. Je pensais pas que j'allais pleurer parce que pour Mayotte, enfin c'est bête.
Parce que c'est vous.
Oui oui. Ouais.
La trahison c'est fort donc forcément, ça remue plein de choses, ouais. C'est sûr.
En fait, si j'essaie de reprendre mes esprits, Mayotte c'est un joyau. Franchement. Et en fait, aujourd'hui, ben, on a perdu ça.
Ouais.
Et mon retour depuis 6 ans, c'est la constatation d'une dégradation, d'un joyau.
Et ça se ressent aussi au niveau de la salle de classe, au niveau du niveau des élèves, parce que c'est quelque chose dont on entend aussi parler, ça. Des difficultés.
Alors oui, on a des difficultés liées au fait que la langue française, c'est pas la langue de beaucoup de nos élèves.
La langue à Mayotte, c'est le Chimaoré.
Le Chimaoré, le Kibushi. Et donc le français, c'est une deuxième langue. C'est vrai que des fois, on est confronté à des élèves qui bloquent sur la langue. Enfin, ça peut arriver en classe que les élèves assimilent la méthode, mais que par exemple pour lire un texte en histoire, en géographie, ils butent sur des mots, etc. Et ça se ressent, mais en même temps, en fait, la classe, c'est... Enfin, moi, j'ai toujours imaginé ma classe comme un sanctuaire, ou une sorte de micro-société, en fait, où on va essayer un peu d'oublier ce qui se passe dehors, et on va essayer d'avancer, de... Enfin, voilà, moi, quel que soit le niveau de mes élèves, ma mission, en tout cas, c'est d'essayer de les faire progresser. Donc j'essaie un peu de faire abstraction de ça.
Et il y a eu aussi les difficultés avec collègues professeurs pour qui vous n'êtes pas assez mahoraise, et puis aussi vos proches pour qui vous êtes trop occidentale.
Exactement.
C'est compliqué quand même à gérer tout ça.
C'était mon retour à Metz, c'était un peu ça. On me niait ma maorité, ma famille, mon village me le niait parce que j'étais je reviens avec pendant ces 8 ans quand même, j'ai vécu 2 fois à l'étranger. Donc ces 8 ans d'exil. Donc d'un côté, je suis trop occidentale par ma manière de penser, parce qu'effectivement, on a des traditions que j'ai voulu bousculer, que j'ai bousculé à ma petite échelle. Et puis de l'autre côté, on me nie ma maorité parce que je ne correspond pas à la représentation que certains de mes collègues qui s'appellent expatriés, c'est-à-dire qui viennent de l'Hexagone et qui travaillent à Mayotte, ont. C'est-à-dire que je suis plutôt à même niveau de compétence, voire plus maintenant. Et donc je ne correspond pas à l'image fantasmée qu'on pouvait avoir de la mahoraise. Et on me le niait, ça. On me disait « Ah non, mais toi, tu fais pas mahoraise ». Et moi, dans ma naïveté, je répondais « Ah, mais comment ça ? Ah bon ?»
La fameuse naïveté qui vous a permis d'échapper à chaque fois à des situations difficultés.
C'est ça.
C'est quelque chose que vous partagez d'ailleurs avec finalement tous les jeunes Mahorais qui ont décidé de rentrer à un moment à Mayotte pour redonner à l'île. C'est pas quelque chose qui est spécifiquement lié à votre propre parcours.
Non, ça c'est quelque chose. C'est vrai qu'on, quand on discute avec les amis, on a ça. Même c'est une fois je discutais avec une collègue et j'avais pris à partie parce que j'avais dit mais vous êtes toujours entre vous. C'était une collègue métropolitaine. J'ai dit, mais vous êtes toujours entre vous. Vous êtes toujours sur le lagon. Vous vous intéressez pas à ce qui se passe sur Terre. Vous ne vous intéressez pas aux locaux. Et donc, la personne me disait, en fait, c'est une différence de milieu, de statut. J'ai dit, non. En fait, finalement, elle a reconnu que les personnes locales de même statut social, c'était moi qui lui avais présenté. En fait. Et donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on reproche aussi, dans les rapports qu'on peut avoir sur Mayotte aux métropolitains. C'est-à-dire que nous, quand on est venu ici, comme je vous l'ai dit, nous, il était hors de question. Enfin, moi c'est, et je dirais pareil pour ma fille, plus tard, tu vas pas en métropole pour t'enfermer. Il y a tellement de choses à voir, donc va voir les autres communautés. Et c'est vrai que de voir que on a des gens qui viennent à Mayotte et qui se mélangent pas trop, c'est vrai que ça nous interpelle.
Ce qui ne vous a pas empêché de devenir la première agrégée d'histoire-géographie de l'histoire de l'île de Mayotte, qu'est-ce qu'il représente, ce titre, pour vous, au-delà de votre propre carrière ?
Moi, je pense que là, j'ai rempli mon contrat. Je suis rendue à Lille, tout ce qu'elle m'a donné. Et je continue toujours à rendre à Lille parce que, parce que c'est un territoire qui est tellement fantastique. Mais oui, ça m'a fait tellement plaisir d'être la première, toujours confondue, d'être quelque part une pionnière. Et j'espère que je vais inspirer d'autres personnes. J'espère qu'il y en aura d'autres, des agrégés. Je trouve que c'est un peu bizarre qu'il n'y a que moi. C'est pour dire le retard qu'on a par rapport à d'autres territoires de France. Pour moi, c'est pas normal, par exemple, que je sois la première. J'aurais dû être la 100e. Mais voilà, ça représente... l'abnégation, le travail, même si c'est vrai qu'à chaque fois je suis naïve en fait. Je suis ok, d'accord. Mais en fait finalement le parcours il n'était pas facile. Je rappelle quand même qu'en première année je comprenais rien à rien. Donc et finalement avec beaucoup de travail et de volonté, parce que c'est beaucoup de travail et de volonté, aujourd'hui je peux faire des blagues sur l'histoire. Ça c'est génial.
Et il y a un autre pionnier auquel vous avez voulu rendre hommage, c'est celui-ci.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer.
Voilà l'élection de Barack Obama et son discours chez lui à Chicago. Nous sommes en novembre 2008, vous avez donc 20 ans. Qu'est-ce qu'elle a symbolisé pour vous dans les yeux de la jeune femme que vous étiez ?
Déjà une nuit blanche. On va commencer par ça parce que c'est beaucoup d'espoir. C'est un peu, on rêve que la même chose se passe en France. On se dit, oh là là, là-bas c'est possible. C'est ce genre d'événement qui nous dit, vas-y, continue à être naïf face à certaines situations. Je vais faire dans le cliché, mais quand on vient, entre guillemets, de la diversité, il faut être fort, quoi. Il faut être fort. Et il faut être naïf des fois, il faut faire semblant de pas avoir entendu,
de pas entendre.
De ne pas entendre, parce que si on a de l'ambition, les freins sont doublement plus nombreux, parce que les gens, on bouscule les stéréotypes des gens, et du coup ils ne comprennent pas. Et donc il faut être fort, il faut être déterminé, et il faut avoir cet espoir. Et pour moi, Barack Obama, c'est ça. Yes, we can. C'est moi je l'ai pris pour moi. Yes, I can. Et je continuerai comme ça. Enfin, à bousculer des portes et aller là où on ne m'attend pas.
C'est ce que vous leur dites à vos élèves?
C'est ce que je leur dis. Et surtout, ce que je leur dis aussi, c'est que vous êtes les responsables. Alors, je redonne cette responsabilité. J'ai dit, vous êtes le futur de Mayotte. Vous êtes les futurs responsables de Mayotte. Donc, à chaque fois que je leur expose un problème, je leur dis, voilà, la problématique, c'est ça. Mais j'ai confiance en vous. Vous allez trouver la solution et nous sortir de là.
Merci, Mouniati Moana, d'être venue nous parler de votre parcours, de Mayotte, de votre émotion aussi, de votre engagement pour
Merci.
L'éducation de votre île que je connais un petit peu. Ils en ont de la chance, vos élèves
c'est
du collège Kaweni 2 de Mamoudzou. Longue carrière à vous et
Merci.
Nous, chers auditeurs. Nous nous retrouvons samedi prochain, même heure, pour une nouvelle rencontre avec une autre combattante.
Un cadavre exquis, un revolver dans les journaux. L'homme est cruel, les mots assassinent l'âme criminelle. Tu me tiens, c'est idiot. Comme un duel. Qui est la plus bête? Qui est la plus belle? Petit jeune, ne comprenais rien. Et aujourd'hui encore moins.
C'était Ours et M, petit jeu.